Bonsoir, bienvenue dans la cour des grands.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir Diana.
Bonsoir Estelle.
Alors, ce soir, on n'est que nous deux, entre filles.
Ah oui, entre filles.
Mais on va parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser aussi beaucoup d'hommes et de garçons.
Ah oui, pourquoi ça?
Parce qu'on va parler des jeux, mais des jeux dans la salle de classe, mais des jeux sur les ordinateurs. On va parler de la gamification de l'enseignement.
Oui.
Et puis, je ne sais pas si tu connais aussi ce terme, on parle aussi de hacking social.
Oui,
donc,
vas-y.
Comment certaines personnes arrivent à apprendre par elles-mêmes sur les ordinateurs grâce aux ordinateurs. Donc, parce que c'est un petit peu ce qu'on appelle, tu sais, des geeks, entre parenthèses.
Voilà,
donc des gens qui
les autodidactes de la technologie.
Exactement, ceux qui utilisent les outils, comme on appelle, donc tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, on les appelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication.
Voilà.
Mais toi alors, Diana, est-ce que ça existait ça quand tu étais à l'école? Est-ce qu'il y avait déjà outils, comme on appelait les nouvelles technologies? Parce que ça date pas, ça date pas d'aujourd'hui quand même qu'on
non,
utilise.
Non, ça date pas d'aujourd'hui, mais écoute, là tu m'envoies une vingtaine d'années en arrière.
Mm-hmm.
Voilà, moi ma première introduction au monde de la technologie en classe, c'était avec les Apple. Donc je me souviens qu'on est passé des ordi beige
oui.
au fameux Apple avec en arrière, mais c'était quand même des gros cubes, mais en arrière c'était bleu ciel, un peu transparent, c'était waouh, j'aurais jamais cru que le flat screen,
oui,
que j'aurais pu voir le monde.
C'était déjà
oui.
un peu design, hein, parce
oui.
qu'ils se sont toujours un peu
oui,
différenciés par ça.
Voilà.
On a toujours envie du produit.
Et puis voilà, moi c'était la
mais
première fois, j'étais en sixième année.
Ça c'était dans l'enseignement?
Non,
l'école?
Là je te parle moi, étudiante en sixième année. OK. Donc voilà comment que j'ai vu pour la première fois de ma vie la technologie dans une salle de classe. Maintenant pour ce qui est de l'enseignement, ma formation, c'était seulement les travaux qui étaient remis, mais j'ai pas eu en formation, en 4 ans de formation, j'avais pas eu cette approche-là, cette façon d'enseigner.
Ah,
quoi
oui.
qu'on la connaissait. Donc, oui, on sait qu'il y avait les tableaux blancs durant les stages, mais les applications.
Alors, le tableau
tout.
Blanc, pour les personnes qui ne savent pas, parce que c'est pas toujours évident.
Oui.
Oui, c'est le tableau interactif. Le tableau
interactif, voilà.
Non, parce que c'est très commun au Canada. Hein, il y en a vraiment dans toutes les salles de classe.
Mais ce n'est pas
le cas, par exemple, en France. C'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, je pense.
Oui,
et,
évidemment.
C'est vrai que pour ça, le Canada est très avancé. Et puis maintenant, dans la formation, il y a des cours. Dans ma formation, moi, à Ottawa, par exemple, dans l'Université d'Ottawa, on a eu un très bon professeur qui s'appelle Pierre Poulain.
Wow.
Il fait tout ce qui est e-class, il est vraiment très, très fort. Et puis, ce qui était super, c'est qu'on a vraiment pu expérimenter par nous-mêmes les nouvelles technologies.
Wow.
Et puis, crois-moi, parce que moi, j'étais même pas au Canada quand il a fait son cours, donc c'était vraiment tout en ligne.
Ouais.
Et il a quand même réussi à créer un lien avec ses étudiants alors qu'il y a l'écran.
Ouais.
Et ça, c'est quand même intéressant de voir justement comment on arrive à transmettre. Est-ce que c'est possible? Comment ça peut se passer? C'est vrai que... les nouvelles technologies de l'enseignement, on pense souvent aux MOOC, je ne sais pas si tu connais.
Alors,
c'est des cours, en fait, qui sont donnés par ordinateur. Et puis, le but, c'est de partager ton information au plus grand nombre possible. Donc, tu peux t'inscrire à ces cours.
Oui.
Et puis, tu suis, mais tout est en ligne. Et c'est comme des conférences, des
vidéos
conférences
sur des sujets.
Alors, accessible à tous. Il y en a certains qui sont accessibles gratuitement. Et puis, il y en a d'autres qui commencent à être payants. Mais plus ou moins, toutes les universités s'y mettent parce que c'est un nouveau marché. Et puis, ce qui est fou, c'est que tu ne touches pas une centaine d'étudiants comme dans un amphithéâtre.
Oui.
Mais bon, il y a des pour, il y a des contre. On va reparler un petit peu de tout
ça. Bien sûr. Évidemment. C'est toujours une question d'équilibre, mais je pense que dans ce qui suit, les auditeurs vont pouvoir voir le côté manipulatif jeu intégré avec la technologie. Donc, il y a quand même un équilibre un peu...
Oui, et puis je pense qu'il y a surtout une énorme évolution entre nous, ce qu'on a pu connaître en tant qu'élève, c'est ce que tu rappelais. Moi, je me rappelle effectivement, tu sais, des programmations avec Print.
Print.
Tu te rappelles,
c'était
le langage basique,
et puis on faisait
de la programmation.
Et là, il manquait une virgule, et ça y est, une heure de travail non existante.
C'est vraiment intuitif, et puis tous les élèves l'ont dans leur quotidien, dans leur vie, donc c'est même eux qui souvent t'apprennent des choses.
voilà.
Salle de classe. Mais on va en parler.
Certainement.
Une petite pause. Et puis on revient.
Oui.
de retour dans la cour des grands. Bonsoir Diana.
Bonsoir Estelle.
Et ce soir, on vous parle de gamification de l'enseignement.
Oui, 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 oui.
Tu peux nous réexpliquer, Diana, pour si nos auditeurs nous prennent un petit peu en cours de route?
Alors, pour expliquer la gamification dans l'enseignement, ce serait une façon de présenter l'enseignement sous forme de jeu, tout en impliquant la technologie, évidemment. Donc, faut pas oublier la technologie qui joue un rôle central dans la gamification. Mais
Et on disait que c'était pas nouveau, en fait, que effectivement, tout le temps, il y a eu des mouvements qui ont tenté d'intégrer les nouvelles technologies, notamment les béhavioristes. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait la fameuse machine à enseigner. De Skinner.
Oui. Et puis, tu me remets maintenant d'années d'étudiante à l'université, oui.
Mais en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'à l'époque, on pensait vraiment que les nouvelles technologies, il fallait séquencer. En fait, on avait l'ordinateur, mais ça aidait, c'était que des questions-réponses.
Oui.
Donc, c'était vraiment très guidé pour l'élève.
Oui.
Et, c'était un peu.
Mais c'était comme des sondages, quoi. Le concept.
C'était la répétition et la mémorisation. Et on se rend compte que là, on a complètement passé un nouveau cap maintenant.
Oui, oui, oui.
Et c'est plus du tout sur quoi on joue.
Oh non.
C'est vraiment, là, on essaye de développer la créativité, l'innovation.
Le raisonnement.
La pensée critique des élèves. Donc, c'est une utilisation des nouvelles technologies qui est complètement différente.
Ah oui.
Et alors, la gamification, c'est vrai que ça la pousse même à l'extrême.
Ah oui.
Puisque ça permet à l'élève de rentrer vraiment dans un jeu, dans une quest, comme on pourrait appeler.
Ouais.
Donc, une sorte d'enquête, de recherche.
Mm-hmm.
Donc, on éveille son esprit scientifique.
Oui.
Mais à la fois, on y incorpore toutes les matières.
Oui, 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 oui. Donc, ici, l'intégration des matières qu'on aime bien.
Alors, je sais que tu connais ce dont je vais parler. Je vais parler de Quest Learn. Je sais pas si, par contre, il y a d'autres personnes qui connaissent. Enfin, c'est Quest to Learn, en fait.
Oui.
C'est l'école où on joue à apprendre.
Voilà.
Et c'est une école qui s'est ouverte, donc, à New York en 2009. C'est Cathy Salen qui a commencé, en fait, à faire du hacking education, comme on appelle.
Oui.
Et elle s'est basée sur plusieurs recherches qui a expliqué qu'effectivement le rôle de la technologie pouvait vraiment être majeur pour élaborer des projets communs dans lesquels en fait l'expertise des élèves était reconnue au même titre que le professeur. Donc ça, c'est vraiment aussi une différence.
Ah oui.
C'est que, comme je disais, on apprend pratiquement plus des élèves.
Oui. Là maintenant, ce que je comprends, c'est que on veut un peu défaire l'idée que l'enseignante sait tout, l'enseignant évidemment sait tout, ou que l'enseignant dirige l'apprentissage, mais là vraiment on est dans une discussion, on est dans une communauté d'apprentissage. Donc je comprends que tout est dirigé vers ça, ce qui est bien, qui a ses aspects positifs et aussi négatif.
Alors, pourquoi tu dis négatif tout de suite là?
Déjà très tôt comme ça, je dépendamment. Donc oui, je suis en accord parce que oui, en écoutant les élèves, on apprend beaucoup. L'apprentissage, par contre, de nouveaux concepts. Là, ici, j'ai un peu... C'est sûr que dans l'article, c'est pas détaillé. Donc, je serais très curieuse de voir, par exemple, un concept, je sais pas moi, de fraction, ou lorsqu'on parle d'études sociales, histoire qui est pas connue du tout.
C'est marrant que tu parles de fraction, parce que moi, justement, je l'ai fait, ça, vraiment.
Oui,
j'ai eu la chance de participer à un projet avec l'équipe tactique qui travaille souvent avec le ministère de l'Éducation ici, et donc qui est vraiment passionné, enfin, qui sont dédiés à l'implantation des nouvelles technologies.
Oui.
Et j'ai collaboré à une leçon qu'on a donnée dans ma classe sur les mathématiques et Minecraft. Et notamment
Minecraft,
la représentation
bien.
des fractions et des nombres fractionnaires. Et tu ne peux pas savoir l'engagement des élèves pour apprendre. Alors là,
Estelle, je te coupe.
Mm-hmm.
Pour l'engagement, ça marche. Je vous jure, ça marche. peu importe le programme qui est présenté aux élèves de maintenant, hein, c'est les élèves de la technologie. Donc, dès que tu viens avec, ce serait quasiment les piégés, mais dès qu'on vient avec, voici cette nouvelle application, voici l'apprentissage qui vient avec tout d'un coup, voilà, tout est gagnant. Donc ça, oui. Mais maintenant, je veux en savoir plus. Comment faire pour un concept qui est, écoute, d'année en année, qui est toujours un peu corsé, où ce que l'élève, oui, peut être engagé au moins, mais comment faire pour rendre cet enseignement-là, si vous me permettez, de même niveau, dans le sens que l'élève m'apprend et moi, je lui apprends aussi. Là, on parle de fractions.
Pour les fractions, ce serait peut-être particulier, mais en fait, là, ce que tu dis, de vraiment, ça, je l'ai expérimenté par contre à l'université, c'est-à-dire que chacun apporte sa pierre, et puis quelqu'un fait une remarque, et tu repenses le problème différemment.
Voilà.
Au stade de nos élèves, oui, ils t'apprennent toujours des choses parce que forcément, nous, on est beaucoup moins branchés qu'eux.
Oui.
Pour les fractions, et en tout cas, et pour toute technologie que tu peux utiliser en lien avec un domaine particulier, ce qui est un peu plus difficile, en tout cas, où il faut penser vraiment à ta leçon. Il faut, bon, comme toute leçon, il faut la planifier, mais surtout, il faut penser même à l'enseignement de la technologie en tant que telle.
Oui.
Et ça, c'est vrai que moi, par exemple, Minecraft, je pensais que c'était quelque chose d'acquis pour tous mes élèves.
Ouais.
Et je me suis rendu compte, grâce heureusement à l'enseignante qui travaillait avec moi, qui a collaboré avec moi, qu'elle m'a dit non, mais demande quand même s'ils connaissent Minecraft. Est-ce qu'ils l'ont vraiment manipulé?
Qu'ils connaissent tous les astuces.
Voilà, ce qui me paraissait incroyable. Et en fait, on a fait un sondage. Effectivement, j'avais des élèves qui n'avaient jamais touché à Minecraft.
Ah, voilà.
Donc, oui, les nouvelles technologies, ils connaissent. Oui, ils les manipulent. Maintenant, est-ce qu'ils ont le recul éducatif par rapport à la nouvelle technologie aussi? Parce qu'ils peuvent l'utiliser pour jouer, mais simplement vraiment pour se divertir, ou pas forcément pour apporter un plus. Donc, c'est vraiment là, c'est là où l'enseignant entre en jeu et apporte plus que l'élève.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il va lui montrer comment utiliser la technologie.
Exactement.
Pour que ça soit la vidéo, que ça soit les chaînes YouTube, que ça.
Maintenant, là, on fait une sorte d'autorégulation. Oui. Donc, le pourquoi, le comment j'utilise, quel est mon objectif quand j'utilise ces programmes-là.
Tu apportes la réflexion, effectivement, l'analyse réflexive peut-être qu'il n'a pas. Et puis surtout, enfin moi j'ai remarqué que finalement, toutes ces nouvelles technologies, leur grande force, c'est le partage. Mmh. Et le partage, plus tu partages en fait ce que tu penses et tes idées, et plus tu t'améliores.
Oui.
Toi en tant qu'enseignante, quand tu collabores, c'est comme ça que tu t'améliores.
Oui,
et
évidemment.
Les élèves, ils apprennent autant de leur père que de nous.
Oui.
Et ça, vraiment, je pense que maintenant, tout le monde a compris ça et suit ce raisonnement-là. Et c'est pour ça qu'on essaye d'amener à ce genre d'expérience. Mais l'article dont tu parlais, parce que tu as dit c'est dans l'article, en fait, c'est vrai, c'est un article qu'on a trouvé sur ce genre de pédagogie, donc la gamification. Et là, ils expliquent en détail justement comment ils utilisent les nouvelles technologies. Et ça va très loin. Ils font par exemple un laboratoire virtuel de réalité augmentée. Donc, ce que tu disais en introduction, c'est que c'est pas que les nouvelles technologies, il reste aussi un côté très kinesthésique.
Où ils
manipulent des
choses. Que j'adore, énormément.
Donc, la seule chose, des fois, qu'on peut aussi, peut-être, avoir peur dans ce genre de, quand tu te lances dans ce genre d'aventure, c'est de perdre de vue ton résultat d'apprentissage. C'est-à-dire que l'élève s'amuse avec la technologie et puis finalement oublie un petit peu le fond du. C'est comme les présentations. Tu fais des belles présentations sur des PowerPoint, sur des Prezi, sur des slides, et puis tu te rends compte que finalement le fond peut-être n'y est plus, ou tu ne veux pas que simplement ton élève fasse des copier-coller, parce qu'il n'y a plus aucun intérêt, alors là, d'utiliser la technologie. Donc, c'est vrai que la technologie, c'est comme un couteau, quoi. C'est à double tranchant.
Double tranchant.
Ça peut très bien t'aider à avancer et à simplifier les choses. Je pense notamment aux preuves d'apprentissage.
Ah,
mais
oui.
Honnêtement, en tant qu'enseignant, on sait tous. Mais on garde des papiers, on se perd dedans, on ne sait plus où les classer, on ne sait plus. Les nouvelles technologies, pour ça, c'est juste.
Ah non, ça, franchement.
Énorme.
Prendre des photos, des vidéos, c'est direct. Les parents ont les preuves, les parents aussi. Je trouve que ça permet aux parents d'être plus impliqués. Je pense à un programme que j'aime appeler mini Facebook, là, je sais pas pourquoi. Quoique j'ai entendu dire que Facebook a quand même cette...
C'est deux jours? C'est quoi? C'est la classe de jeu?
Le 600.
Quoi? Ah.
OK, donc bon, je regrette de pas avoir connu ça plus tôt. Donc au fait, si ça c'est quoi? Donc c'est pour ça que j'appelle ça le mini Facebook. Donc au fait, l'étudiant a son profil. Mm-hmm. Hein? Et l'enseignant, lui, il est pilote des profils de chacun des élèves. Donc l'enseignant peut afficher dans la communauté CISA, où les élèves ont tout accès, peut accéder à ce que moi je mets. Hein? Mm-hmm. Et l'enfant aussi peut aller dans son propre compte lorsqu'il a fini son projet ou un travail ou même moi je pourrais filmer une présentation sur son compte. Et le mettre à la maison, il a l'accès aussi, mm-hmm. et voir dans son profil comme Facebook, comment qu'on dirait des feeds en français, là. Ils ont leur...
Fil d'actualité.
Oui, voilà, leur fil d'actualité, voilà, leur ligne du temps, mm-hmm. soit quotidien ou hebdomadaire, là, dépendamment de la fréquence à laquelle qu'on...
Alors, il y a toujours une limite à ça, c'est par contre, qu'est-ce que tu fais avec tes élèves qui n'ont pas d'ordinateur chez eux?
Oui, parce et vous savez que c'est une réalité, je vis, voilà. Mm-hmm. Ils en profitent en salle de classe parce qu'écoutez, un compte, justement, ils y peuvent aller à la bibliothèque.
Mais exactement, je m'étais fait cette réflexion, oui. Je me disais, avant, quand tu allais à l'école, tu sais, il y avait des gens qui apprenaient à nager parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'aller à la mer ou d'aller
patiner aussi.
Ou le ski ou ce genre de choses. Oui. Et finalement, ce qu'on apporte aussi avec les nouvelles technologies, par exemple dans Minecraft, c'est vraiment un bon exemple, c'est il y a des élèves qui n'avaient jamais goûté à ça, qui n'avaient jamais connu ça. Oui. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent avec un outil pour eux incroyable. Donc, mais c'est vrai qu'il faut quand même le temps d'appréhender toutes ces technologies.
Oui.
Il faut le temps d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir les envisager peut-être... Déjà, nous, en tant qu'enseignants, autrement.
Oui.
Et puis, l'élève également.
Oui, oui, oui.
Mais
oui,
c'est vrai que ça peut être un rôle aussi de l'école. L'école est là aussi pour initier et permettre...
Absolument, absolument. Moi, j'ai même introduit... Bon, j'ai déjà commencé le OneNote. Mm-hmm. Ah, OK, donc ça, on connaît bien.
Oui, oui.
Et puis, voilà, j'explique aux élèves. Je leur ai dit, imaginez, regarde, je suis en train d'enseigner, je... copie, je colle à la bibliothèque, voilà, t'as l'accès direct.
Oui, et tu peux et même faire la classe inversée aussi.
Ben oui, je leur ai dit ensuite,
en avance,
voilà, je
après,
peux envoyer, voilà, et ensuite regarder, et on revoit en classe. J'ai même une enseignante qui ne vit que de ça. Mm-hmm. Je peux faire...
Tu gagnes du temps.
Ah oui, on gagne beaucoup de temps, économie de papier, hein. J'aurais dit, écoutez, ça c'est même bien pour l'environnement. Mm-hmm. Je leur dis, on est en 2017, regardez, je peux transférer de l'argent tout de suite, puis certains savaient même pas. J'aurais dit oui, à l'instant même.
C'est ça qui est difficile, c'est que t'as des élèves qui sont très au courant et puis d'autres qui sont... par exemple, on parlait un petit peu pendant la pause, là, on parlait des nouvelles clés USB.
Ouais.
Je sais pas si vous les avez vues, mais souvent, on ne sait même plus.
Ben oui, ben moi-même, écoutez, je vais pas me cacher. Parce que bon, écoute, maintenant, avec tout ce qui s'enregistre, parce qu'on sait que bon, oui, il y a la clé USB, mais on sait qu'il y a l'enregistrement en ligne. Donc moi, j'essaie de toujours m'adapter à l'enregistrement en ligne ou m'envoyer directement par courriel. Donc, clé USB, oui, j'utilisais ça peut-être il y a 5 ans de mais maintenant.
C'est déjà has-been,
c'est déjà
évolué.
Mais, par contre, j'avais demandé à mes élèves de ramener des clés USB. Bon, là, ils étaient excités. Je suis en salle de classe. Il y a cet élève qui est sur la table, qui est en train de jouer avec une petite girafe qui ressemble à une gommette ou, je sais pas moi, un petit bonhomme. Donc, elle vraiment joue. Et je la regarde. Je pensais même que c'était un porte-clés, voilà. Mm-hmm. Je la regarde, je lui dis, écoute, t'as confisqué, ça te distrait et tout. Et je lui dis, donne-moi la petite girafe. Et elle me regarde et dit, mais madame, c'est ma clé USB. Je fais, pardon, je la croyais, elle a dû carrément le défaire. Non, mais je vous dis,
Mais j'ai un ami comme ça aussi qui donnait des conférences en Afrique et puis il s'est fait voler sa clé. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était un petit neveu de quelqu'un qui participait à la conférence qui avait... trouvé ça joli et qu'en fait qui avait juste voulu le garder parce qu'il pensait que c'était un jouet
donc, qui s'illumine
c'est ça on sait pas trop mais en tout cas ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on voit l'évolution
et
on parlait des résultats d'apprentissage est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de vue comme nous là un petit peu à l'émission notre résultat d'apprentissage donc savoir l'objet pour lequel il doit faire ce genre d'enquête ce genre de recherche et puis comme tu le disais très bien il faudrait observer chaque élève et puis voir chacun quel résultat même il arrive par lui-même à obtenir. Ben parce que toi, tu vises un résultat, mais comme ça ouvre tellement de possibilités,
il y a tellement d'autres choses,
que finalement, il peut t'apporter d'autres résultats d'apprentissage auxquels tu n'avais pas pensé au départ. Et c'est vrai que ce qui est intéressant là aussi, c'est pourquoi on insiste autant sur les résultats d'apprentissage.
Et je viens d'avoir une idée. Alors, on va répondre à ta question, là, le pourquoi. Mais ce que je pense qu'on devrait rajouter à ce résultat d'apprentissage-là, c'est la toile d'araignée ou moi j'appelle ça la toile d'araignée, mais c'est une sorte de rond avec le brainstorming.
Oui.
En tout cas, il y a
le
tellement de termes utilisés pour. En tout cas, bref. Mais ça serait bien pour qu'on puisse justement récolter les résultats d'apprentissage qu'on n'avait pas ciblés au départ. Donc, voilà le projet qui est l'enquête.
Ou même en fin de leçon, tu reviens sur ce qu'on a fait.
Oui,
et
l'objectivation, voilà.
Ouais, c'est regardez ça. Qu'est-ce qu'on
a accompli. Oui, ce serait peut-être même, honnêtement, si c'était pas la grande tendance. C'est la grande tendance, j'aime bien les résultats d'apprentissage. Mais maintenant, si on s'orienterait dans le concept se questionner, faire l'enquête avec le jeu, avec la technologie. Est-ce que vraiment le résultat d'apprentissage a encore sa place?
J'adore cette question parce que pour moi, c'est tellement lié. Tu ne peux pas avoir de résultat d'apprentissage si tu n'as pas eu un premier questionnement vis-à-vis de l'enfant. C'est pour ça qu'on demande toujours à ce qu'il soit co-construit parce que on cherche à faire comprendre à l'enfant par lui-même.
Oui.
Alors, on le guide un petit peu toujours, mais par lui-même, quelle est l'utilité et pourquoi ça? Est-ce que tu sais pourquoi on demande absolument qu'il comprenne l'utilité de ce qu'il apprend? C'est pas juste pour savoir pourquoi.
Mais non.
C'est parce qu'en fait, dans ton cerveau, ta mémoire, tu as une barrière qui fait que ton cerveau dit si cette information je ne la trouve pas pertinente, je ne la garderai pas en mémoire. En tout cas, pas à long terme.
Oui.
Donc, si l'enfant a l'impression de ne pas comprendre pourquoi il fait quelque chose. Et c'est pour ça que même, effectivement, les référentiels déjà faits, je comprends que des fois, ça peut être beaucoup plus facile parce qu'on manque tellement de temps en salle de classe que ça peut être très difficile. Mais je pense qu'il est vraiment essentiel que l'enfant adopte cette raison, ce pourquoi je fais ça. Et c'est pour ça que le gaming, c'est une bonne façon de l'amener parce que même s'il comprend pas profondément au premier abord le résultat d'apprentissage, il va juste au moins avoir envie de résoudre l'énigme.
Oui. Voilà.
Parce que vraiment, tous ces gaming, ce qu'on vous a pas dit, c'est que c'est vraiment basé sur l'énigme. C'est comme, tu sais, ces jeux maintenant qu'ils font même pour les grands, où tu vas dans une salle et puis ils te mettent une énigme et puis il faut que tu la résolves.
Ben oui. Écoute, il n'y a pas de coïncidence. Je viens aujourd'hui d'une session de tutorat où ce qu'une petite fille me parlait du terme. Et il y a aussi maintenant être dans une salle.
C'est ça, il faut que tu t'en sortes.
Oui, il faut que tu t'en sortes. Donc là, on parle de beaucoup de collaboration et tout. Et je te jure, le papa a dû venir m'expliquer parce que la petite fille, je dis, mais c'est quoi?
Et je pense qu'il est difficile justement pour les papas ou pour nous, quoi, les adultes, c'est on comprend pas des fois justement quel apprentissage fait l'élève. Parce qu'on on parle de contenu d'apprentissage, donc on veut vraiment qu'il y ait par exemple comme une règle ou une méthode que tu apprennes. Je pense à ça par exemple pour les référentiels qu'on utilise souvent, tu sais, pour les corrections. On a envie que l'élève se rappelle de la règle à appliquer. Mais en fait, je crois qu'on se trompe. Je pense qu'il est plus intéressant, c'est que l'élève apprenne à s'interroger sur comment
résoudre. Ah, ça, je suis avec toi. Ah, merci. Oh, oui.
Pourquoi le résultat d'apprentissage? Parce qu'on a besoin de développer cet esprit critique.
Oui.
Que l'élève sache se débrouiller de lui-même.
Oui.
Qu'il se dise, tiens, j'ai une faute dans ma phrase et qui cherche vraiment à l'identifier, mais par lui-même. Donc, c'est vraiment le processus d'enquête qu'on cherche à résoudre et pas simplement à apprendre.
Oui.
Ben, quand c'est pluriel, il faut mettre un S parce que ça, il va pas s'en rappeler. C'est comme nous, tu sais, on nous a tous appris. Je sais que tout le monde a appris comment faire une division.
C'était beaucoup la répétition.
Tu sais, comment faire une division, par exemple.
Et là, c'était rendu systématique, sans réfléchir.
Tu te rappelles plus même comment la poser. Tu sais même plus comment on fait. Pourquoi, Diana? Parce qu'on ne s'en sert pas.
Voilà.
Donc, pourquoi on s'en sert pas? Parce que finalement, ça ne nous est plus utile.
Oui.
D'où la question, ne devrions-nous pas apprendre que des choses utiles à nos élèves?
Ça, là ici, on retournerait à une autre émission peut-être faire l'éducation, le homeschooling ou le onschooling.
Je sais pas. Écoute, tu sais ce que je te propose? On fait une pause pour
regarder notre résultat d'apprentissage.
Et puis on vous revient sur le gaming.
Oui.
Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM, la radio 100% francophone, 100% Toronto. Bonsoir Diana.
Bonsoir, bonsoir. Toujours branchée au 105,1 FM. Alors bonsoir encore, chers auditeurs.
Et de quoi on parle ce soir dans la cour des grands, Diana?
Alors on parle d'une...
gamification!
Exactement!
Oui, on parle en fait du fait d'utiliser les nouvelles technologies et notamment le jeu, l'enquête, l'énigme pour stimuler les neurones de nos élèves.
Oui.
Alors justement, on parlait du résultat d'apprentissage juste avant qu'on fasse notre petite pause et on disait que les résultats d'apprentissage finalement c'était, enfin, je disais, je ne sais pas si tu vas vraiment être forcément à côté de moi, mais c'est plus forcément les mêmes résultats d'apprentissage que ce qu'on cherchait auparavant. C'est vrai qu'on a toujours des matières, hein, on a toujours les mathématiques, les sciences, ce qu'on a nous connu dans notre jeune âge, mais que c'était complètement différent, qu'on essayait de développer des nouvelles compétences, qui sont souvent appelées les compétences du 21e siècle.
Oui.
Et puis, moi, j'aurais aimé savoir un petit peu toi, ce que tu pensais, ta vision en tant qu'enseignante. Ça fait quand même un petit moment que tu pratiques maintenant.
Oui.
Et je pense que tu as peut-être plus de recul que moi sur tout ça. Parce que moi, j'ai l'impression que tout est nouveau, tout est beau. Mais peut-être que c'est pas
c'est
si
ça.
Évident.
Donc, écoutez, pour ce qui est des les résultats d'apprentissage, ça a son importance. Oui, ça a aussi sa pertinence. Donc ça, il y a personne que je pense qui peut discuter de cela. Mm-hmm. Maintenant, c'est dans la réalité des choses. Est-ce qu'il y aurait pas une façon... Oui, il faut la collaborer avec les élèves parce que c'est leur apprentissage. Tu vois, même utiliser leurs propres mots ou ce que...
Oui, pour qu'ils comprennent.
Qu'ils comprennent déjà, aussi, voilà. C'est vraiment important. Maintenant, est-ce que... si je l'utilise avant chaque projet, est-ce que ça a sa même pertinence que si on la rendrait un petit peu plus globale? Moi, voilà un peu ma façon de voir les choses dans l'aspect pratique, l'aspect théorique. Si je pourrais même faire une AHT pour l'entrée de la classe, comment rentrer, saluer,
oui,
le critère et tout.
Mais tu as raison.
Je l'aurais fait.
C'est très important, ça. On en rigole, mais en fait, ce qui nous différencie des robots et justement des ordinateurs, c'est cette relation interpersonnelle.
Voilà.
C'est ça qui nous fait avoir notre petite valeur ajoutée.
Absolument.
Surtout
absolument.
Aujourd'hui, que effectivement, la mémorisation, tout ça, c'est vraiment les ordinateurs vont prendre cette charge-là.
Oui.
Donc, on aura vraiment besoin de notre cerveau pour tout à fait autre chose, et la collaboration,
effectivement,
le fait de se parler, d'avoir des relations entre humains, c'est ça qui va... Donc, c'est pour ça que quand on parle d'un monde virtuel, oui et non. Finalement, on se rend compte que oui, c'est virtuel parce que c'est en ligne, parce que c'est éloigné, parce qu'on voit pas, on n'a pas la perception de la personne directement à côté de nous, mais finalement tu te rends compte que ça reste des choses, ça reste de l'humain parce qu'on échange, on a des mots, on a des paroles.
Voilà.
Après tout dépend de l'utilisation. C'est
tout dépend de l'utilisation. Pour même faire un ajout, voici selon moi le meilleur des deux mondes. Ce serait justement d'arrêter les résultats d'apprentissage à un objectif un peu plus ciblé. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle les AAHT, donc les habiletés...
les habitudes du travail.
Oui, voilà, les habiletés, les aptitudes de travail, tout ce qui englobe habitudes de travail, pardon. voilà, donc maintenant, montrer à ces élèves-là comment intégrer ces habitudes de travail-là dans leur apprentissage. Donc là, voilà où ce que, pour moi, les RA prennent le goût.
Mais je pense que c'est ça qui est un peu difficile. C'est parce que à la fois, on dit il faut qu'il soit suffisamment large pour justement qu'il couvre plusieurs leçons et peut-être pas avoir à le répéter.
Oui.
Mais à la fois, t'as besoin d'avoir un objectif précis et que l'enfant sache exactement pourquoi il fait une tâche précise. Donc,
oui, mais ça, on pourrait simplement faire le concept de la toile d'araignée. Donc, voici l'enquête que je te présente. Donc, si on revient à la méthode de... c'est pas qu'on la suggère, mais qu'on est en train de...
De construction, de co-construction, des critères, en tout cas de réussite.
Voilà.
Du résultat d'apprentissage et des critères de réussite. C'est ça aussi qui est important. C'est que si tu construis les critères de réussite, l'enfant va avoir en main les outils qui vont lui permettre de savoir pourquoi on l'évalue d'une certaine façon. En tout cas, lui, il va pouvoir s'auto-évaluer. Et c'est ça aussi qui est important.
Oui. Il faut le voir. Mais maintenant, je pourrais simplement prendre... dans justement le côté autorégulation et faire l'auto-évaluation sans nécessairement faire la RA par rapport à la façon dont on présente.
Oui, mais comment tu peux évaluer si tu as pas de RA, si tu as pas de résultat avant?
Mais qu'est-ce qu'on faisait avant?
Le but. Mais
justement, moi je pense. Il y en a toujours un dès qu'on introduit. Moi voilà.
C'est moi je pense qu'il y a plein de gens qui ont été sur les bancs d'école sans vraiment savoir qu'est-ce qu'ils apprenaient, pourquoi ils l'apprenaient.
Je suis en accord. Maintenant, ça dépend toujours de l'enseignant. Donc, maintenant, pour moi, le résultat d'apprentissage, c'est pas que c'est supervisé, mais c'est un petit peu plus, c'est une façon de s'assurer que c'est fait. Parce que c'est vrai que j'ai eu des enseignants, moi-même, là, qui m'ont enseigné, que franchement, j'ai pas compris qu'est-ce qu'on faisait dans le cours jusqu'à maintenant, mais je me souviens bien que il me racontait ce qu'il avait fait la fin de semaine ou qu'il rendait un petit peu ça un peu jasant. Donc tu te demandes, mais ok, où est l'enseignement, où est l'apprentissage? Je suis complètement en accord, mais je me dis, si un enseignant, c'est pourquoi qu'il enseigne, c'est inévitable, ça devrait être inné. Je pourrais pas me permettre d'introduire, peu importe un projet ou même un travail, et ne pas expliquer le pourquoi et qu'est-ce que tu dois en soutirer, tu vois. Maintenant, pour ce qui est de l'écrit, hein, ce serait une référence qui serait visuelle. Donc oui, je pourrais autant plus reprendre la formule qui est utilisée ici parce que je suis certaine qu'il n'y a pas de RA avec ce qu'on est en train de voir. Tu vois un peu formellement comme nous on l'a fait.
C'est-à-dire
ici.
Il n'y a pas de RA avec.
Donc là, quand que je parle de RA, je te parle de la formule à laquelle je te parle. Qu'est-ce que je veux dire? Alors je reprends mes mots.
Oui.
Je te parle de la façon dont c'est fait. Je pense que.
Tu crois que parce que c'est de la gamification, il n'y a pas de.
Je pense qu'il y en a un résultat d'apprentissage. Comme je te dis, tout bon enseignant
je pense qu'il est
a
clair,
toujours un résultat d'apprentissage. C'est inévitable, c'est inné.
Oui.
Donc, j'enseigne, je présente la matière, c'est sûr.
Mm-hmm.
Maintenant, ce que je plains peut-être, ce serait toute cette période-là que je prends, parce qu'il faut pour mettre en contexte les auditeurs, faut expliquer comment que ça se fait. Je pense que c'est le comment ça se fait plutôt que le fait lui-même. Donc, c'est de prendre... Quoi, ça peut aller jusqu'à une heure. Donc, c'est de prendre une heure de cette journée-là, ok? Je vous mens pas.
Mm-hmm.
Ça peut prendre jusqu'à une heure pour établir justement le résultat d'apprentissage, les critères, par rapport à chaque critère, le détail. Est-ce qu'il y aurait pas une formule qu'on pourrait peut-être suggérer, hein,
mm-hmm,
pour la rendre un peu plus continuelle, parce que enseignants, donc franchement, mm-hmm, manifestez-vous sur notre page Facebook qui, à chaque leçon, ont ce temps-là de collaboration pour faire la RA.
Mais tu crois pas que plus tu le fais et plus l'enfant finit par y être habitué et finit par dresser lui-même ses propres critères d'apprentissage et à trouver plus facilement le résultat d'apprentissage?
Moi, j'aime plutôt maintenir le concept de, là, ils comprennent le « je suis capable ». Donc oui, maintenant, c'est un peu plus plaisant maintenant, au mois de mars ou fin avril, hein. Wow, je suis perdue dans le temps. Mais c'est sûr que maintenant, cette saison où est-ce qu'on est le printemps et tout, c'est on voit la différence avec l'automne.
Oui, qu'il y a quand même des techniques qui existent, tu vois, par exemple en mathématiques, souvent il y a le napperon.
Oui, le napperon, mais c'est ça la toile d'araignée. Mais c'est ça.
et en fait
moi j'appelle ça toile d'araignée, mais le napperon, moi voilà, c'est sûr, je fais la RA parce que c'est le RA, mm-hmm, plutôt. C'est primordial. Je me soumets à cette technique, j'y crois. Maintenant, quand que j'ai pas trop le temps, donc faut être honnête. Mm-hmm. Là, j'y vais avec le napperon.
Alors, j'ai peur qu'on perde un peu nos auditeurs parce qu'on est en train de parler de choses très techniques.
Très
et je pense que si Serge était là, nous dirait, mais de quoi vous parlez, les filles? Donc, en fait, pour revenir un petit peu quand même à notre gamification et puis à l'utilisation, à l'emploi des nouvelles technologies, en fait, ce qui était aussi très intéressant, c'est de voir la perception que chacun a des nouvelles technologies, donc qui peut être négatif, positif, et finalement ça me fait penser, alors je sais pas si tu connais, je pense, il s'appelle James Gibson, et puis il a fait toute une théorie sur ce qui était affordable, mais on l'a traduit en français par ce qui était l'afforance. Mm-hmm. C'est une mauvaise traduction, oui. Mais voilà. Qui, en fait, explique à chaque fois que tu as un nouvel objet, quel que soit l'objet, en fait, tu as une perception différente et puis qu'elle évolue. Par exemple, une chaise, hein, tu peux la voir pour t'asseoir, tu peux la voir comme un chevet si tu mets un livre dessus, tu peux la voir comme un escabeau, et que ces perceptions, c'est l'ensemble des personnes, l'environnement, en fait, la perception de ton environnement qui fait que ta perception change de l'objet.
Oui, absolument.
Et je me disais, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la nouvelle technologie, c'est aussi un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, au fil du temps, on l'a perçu de façon différente parce que son utilisation a évolué, parce que d'autres gens ont été peut-être plus créatifs et l'ont utilisé aussi autrement. Oui. Comme pour la chaise avec l'escabeau, ou pour un objet, pour un but précis, si vous voulez vraiment attraper quelque chose en hauteur, bah oui, tu as utilisé la chaise. Et je me disais, c'est assez intéressant de voir que justement tu développes d'autres capacités, d'autres, et même pour aller plus loin, tu sais, alors je sais pas si c'est un mythe, mais on dit souvent qu'on utilise que 10% de notre cerveau, puis on fait toujours une différence entre, tu sais, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Donc, je sais que c'est pas si vrai.
C'est cartésien.
Ouais, je sais pas si c'est si vrai que ça. Je pense que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Et puis surtout, je pense que plus on évolue, plus notre cerveau évolue.
Oui.
Et justement, il doit réagir différemment. Et je me dis peut-être qu'effectivement, avec les nouvelles technologies, on est en train de faire réfléchir d'autres parties de notre cerveau. Je te dis ça parce qu'il y a eu plusieurs études. Oui. Par exemple, le GPS, on a dit que à cause du GPS, on ne se servait plus de notre cerveau. Il y a eu des études qui ont été faites vraiment là-dedans, en disant ça. Et puis pareil, il y a eu des implants, tu sais, qui ont été créés pour augmenter notre mémoire, pour notamment lutter contre l'Alzheimer. Et puis donc du coup, on se rend compte que notre cerveau, il a plus du tout la même que les mêmes capacités ou la même utilité.
Mais est-ce que c'est parce qu'il est pas assez stimulé
et d'ailleurs, on parle plus de QI souvent, on parle de quotient émotionnel. C'est là où je te disais, ben oui, je pense que finalement,
alors là, notre même au-delà du monde de la technologie, moi, je me dis une approche d'enseignement en se suivant justement sur l'émotion des élèves. Je me demande, est-ce que ce serait pas aussi gagnant? Parce que je t'explique encore, on se ramène un peu à l'autre émission. Mm-hmm. Est-ce que un peu trop de technologie, est-ce qu'on se perd pas? Parce que là, maintenant, je peux te dire que je serais la partie, hein, les bébés des années 80. Donc oui, j'ai connu la partie de jouer dehors. J'ai connu aussi un peu milieu secondaire, la partie que je reste chez moi, MSN.
Mais oui, et ça, c'est un très bon point que tu soulignes.
Maintenant, le monde du dating, les années 70, c'était pas trop. Mm-hmm. Oui, ils sont encore là-dessus, mais je veux dire, c'était pas ça la tendance. Maintenant, c'est presque un incontournable. Donc, maintenant, les enfants qui sont toujours sur leur tablette à la maison, à l'école, encore sur la tablette.
Mais alors, justement, il y avait beaucoup de parents, hein, qui s'inquiètent toujours pour ça. Et là aussi, on a quand même prouvé que tout dépend de l'utilisation que tu fais de ta tablette.
Voilà.
Si tu la fais de façon pédagogique, et ben, forcément, t'auras pas les mêmes répercussions sur ton cerveau que si tu es passif devant l'écran.
Oui, mais il y a une absence du monde de l'interaction sociale. Donc ça
c'est vrai.
Moi,
ça, c'est
ce
vrai.
Point-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, maintenant, c'est sûr, c'est un peu l'essai-erreur parce que l'ampleur est là, hein.
C'est vrai. Et faux. C'est-à-dire que ton environnement social est agrandi, on va dire, mais élargi, mais tu n'as plus l'interaction physique, et ça, c'est
un émotionnel
vrai...
aussi, parce que tu peux pas cibler l'émotion...
Avec les mots des fois derrière un écran, tu
bon là maintenant peut-être apprenons à nos
Mais c'est vrai qu'on remarque que les enfin oui qu'il y a une évolution même à ce niveau-là des relations entre les
On verra, moi je me dis on verra dans 10 ans la répercussion que tout cela aura sur la société, sur les apprentissages.
On a toujours l'impression de courir derrière la technologie, c'est ça qui est terrible, parce que je prenais mon exemple de la chaise, mais bon, on a quand même eu du temps, et puis il y a une évolution qui s'est fait lentement, mais là, les nouveaux objets, ils arrivent tous les jours. Les jours, il y a quelque chose de ça finit plus.
Les applications, écoutez, je pensais quand même que je maintenais une tendance assez voilà, active, et voilà que, il y a une autre Musical.ly, là, je sais même pas si je prononce bien, là, parce que aujourd'hui, justement, tu vois, là, on apprend des élèves, je leur parlais des applications et tout, et voilà que le cas, je leur ai dit Musical.ly, là, ok. Alors, qui est dessus? Ah oui!
Il y en a beaucoup?
Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Mais c'est surtout ceux qui ont les grands frères, grandes sœurs. Ça, j'ai pu le...
Oui, constater.
Oui, oui, constater à l'immédiat, là. Même, je l'ai deviné, mais je riais. Il y en a même certains qui disent, ah, mais non, je savais pas que tu avais un grand frère ou une grande sœur. Oui, madame, oui, madame. Donc, oui, oui, j'ai des élèves sur Snapchat, Instagram, Musical.ly.
Mais c'est vrai qu'on a, on a du mal à contrôler tout ça. Et tu disais, est-ce que on peut apprendre justement des enfants?
Oui.
Alors effectivement, il y en a qui connaissent, mais même au-delà de ça, j'avais lu un article où il parlait justement d'enfants des Beaux-Arts, qui, enfin du Palais des Beaux-Arts, qui avaient utilisé une nouvelle tablette révolutionnaire qui avait été mise en place par Cénas. Et puis ils voulaient voir quelle était notre réaction face à un tableau.
Ouais.
Et ils te permettent en fait de tracer sur la tablette ce qui toi t'attire l'œil ou te, en tout cas, fait ressentir quelque chose chez toi. Et grâce à ça, et donc ces enfants, ils ont tous pointé un repentir du tableau de David, d'une des œuvres, d'une des toiles de David.
Alors,
un repentir, c'est quelque chose que le, justement, l'artiste a voulu cacher, a souvent recouvert.
Okay.
Et ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont découvert assez rapidement, enfin, en, alors qu'il y a, des experts qui ont mis des années à pouvoir, avoir de ce, donc, on a encore plein de choses qu'on essaye de décrypter, et l'art, ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas et qui, enfin, tout ce processus
qui est abstrait
créatif,
un peu, tout ce qui est abstrait devient plus concret peut-être.
Je ne sais pas, mais c'est une approche différente et c'est quand même drôle de voir toute cette évolution et qu'est-ce que ça va devenir. Et c'est vrai que quand tu t'intéresses un petit peu à l'éducation, ben c'est un petit peu effectivement comment tout cet apprentissage, comment on va l'intégrer, parce que c'est va être notre nouvel environnement.
Oui.
Et si tu sais pas utiliser tous ces outils,
comment tu arrives à maintenir maintenir le rythme? Ben oui, faut tout de suite être à l'affût, mais c'est à l'intérêt des élèves. Donc moi, j'ai toujours gardé ce discours-là. C'est pour l'intérêt des élèves. Donc, si on sait que c'est qu'est-ce qui les accroche, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, on peut favoriser, par exemple, il y a l'aspect art qui est enseigné. Donc là, ici, je reprends les CNET. Je vous dis pas que j'utilise pas la technologie, mais là, je l'utilise pas de manière active, dans le sens que je vais leur montrer peut-être une CNET à l'écran. Mais maintenant, leur demander de faire une scénette, non. Là, on veut la vivre, on veut créer l'interaction. C'est ça, voilà. On veut vivre l'interaction, voilà. Parce que bientôt, je vous mens pas, j'ai déjà dit à des collègues enseignants, je leur ai dit, écoutez, faites votre chaîne YouTube.
Oui, oui, oui.
Parce que maintenant, bientôt, je me dis, il y aura plus d'enseignants dans les salles de classe. Parce qu'on veut tellement les rendre autonomes, tellement habiles à l'ordinateur, ça sera comme les fameux cours en ligne. Je me dis, est-ce que on se dirige vers ça? Comme que j'étais jeune, j'avais quoi, 9-10 ans, je me souviens quand on allait à la banque, il y avait plein de monde, les lignes étaient longues, plein de caissières, pas les caissières, voyons, les...
Oui, celles qui sont
C'est ça, celles qui sont guichets. Les préposés au guichet. On les appellerait comme ça. Et maintenant, voilà, le monde interact qui est arrivé. Et là, voilà, ça a coupé des postes.
Ça révolutionne tout.
Oui, oui. Et là, maintenant, on est même en ligne. Là, j'ai même plus besoin du guichet. Je me suis commandé un Square dernièrement.
Mais j'aime bien, en tout cas, ta réflexion de dire il faut aller avec l'intérêt des élèves.
Oui.
Et c'est ça qui est rassurant, c'est que quand même les élèves, bon, bien sûr, ils aiment les écrans, mais je pense que malgré tout, enfin, tu parles avec n'importe quel enfant, ce qu'il va privilégier, c'est le temps passé avec ses parents ou avec ses amis, en tout cas avec les gens qu'il aime.
Oui.
Et ça, c'est quand même assez rassurant.
Oui.
Je sais qu'il y avait eu plusieurs études comme ça où même si on avait demandé quel serait ton plus beau cadeau de Noël, et puis à chaque fois, en fait, c'était du temps avec, souvent avec les parents.
Oui.
Et je trouve ça assez rassurant parce que je pense que les parents ont aussi un énorme rôle à jouer à ce niveau-là. C'est vrai que on est tous sur nos écrans, on a tous cette tendance-là.
Ouais.
Et je pense pas que ce soit finalement si naturel chez l'enfant. C'est juste peut-être qu'il le copie et puis que ça fait partie de son environnement.
Oui, absolument.
Mais maintenant, s'il a le choix, et je pense que c'est pour ça que c'est important de toujours laisser le choix.
Oui.
Et c'est drôle parce que toutes ces relations-là dont on parle, il y a un auteur, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Pierre-Yves Villeneuve, qui a fait 3 livres de jeunesse pour les enfants, qui s'appelle Gamer, Et il a fait 3 tomes. Et puis, il parle de ça, justement, des enfants, la relation avec... c'est que des petits geeks, hein, en clair.
Oui.
Et puis, il raconte un petit peu des bandes, l'effet de bande. Et ce qui est aussi important, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Comment aussi aider nos enfants à appréhender le monde, le cyberespace, parce que la cybercitoyenneté, savoir comment, que dire sur les réseaux, qu'afficher comme... Et ça, je pense que c'est presque plus important. Enfin, c'est un aspect très important, la nouvelle technologie. Et je pense que des fois, on l'oublie un petit peu.
Oui.
On a tendance des fois peut-être à l'oublier. On pense tout de suite à, effectivement, à qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer de la technologie. Mais il faut surtout savoir... ça, c'est une des limites qu'il faudrait vraiment essayer d'encadrer.
Oui.
Et je pense que ça devrait vraiment faire partie d'un enseignement.
Oh,
il devrait
oui.
y avoir un curriculum de la nouvelle technologie.
Oui. Bon, oui, il devrait avoir un curriculum. Bon, pour ce qui est, bon, là, c'est sûr qu'il y a des ateliers que je sais qui sont déjà en place pour tout ce qui est cyber, intimidation, mm-hmm. parce que ça commence déjà au primaire.
Oh, wow.
Les conséquences.
Primaire.
Oui. Donc, je sais que les policiers ont cet atelier-là. J'ai eu la chance de
participer, de
voir cet atelier là donc qui ça parle un peu de la cybercitoyenneté, là j'aime le mot que tu as employé. Donc justement qui leur expliquait, écoutez, c'est pas n'importe quoi, lorsque tu publies, lorsque tu mets une photo, ça reste toujours là, etc. Donc oui, il y a des ateliers comme ça.
Et ce que j'ai bien aimé aussi dans l'article, c'était que c'était quand on a parlé là du gaming, c'était une école Quest to Learn,
oui.
C'était une école publique. Donc, je voulais juste rappeler
que
on a toujours tendance à penser que c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite et tout ça. Je pense que ça va vraiment se démocratiser.
Oui.
Et c'est beau de voir de telles, de telles initiatives et d'apporter ça à nos élèves. C'est ça, en tout cas, l'école, ça fait partie d'une de ses missions. C'est d'essayer d'amener au nombre le plus grand ce genre de, d'innovation.
Absolument.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, Diana, pour ce soir.
Oui, déjà.
Je suis triste de quitter mes auditeurs.
Oui.
Je sais pas si toi, c'est pareil.
Pareil.
Bon, on leur donne rendez-vous la semaine prochaine.
La semaine prochaine. Et on salue Madjigan et Serge.
Qui nous retrouveront sûrement jeudi prochain.
Oui, absolument.
À 19h. Et puis, vous pouvez nous réécouter sur le site de Choc FM en balado. Ou alors, dimanche, ce sera rediffusé également à partir de 4h. À bientôt.
À bientôt.
À la semaine prochaine.